Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée samedi 4 septembre, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique concerne l'Ouganda, le Mali et l'Éthiopie, entre autres. Commençons l'actualité de l'Église par la semaine du pape.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu en audience samedi le cardinal Marc Ouédé, préfet de la Congrégation pour les évêques. M. John Trott, ambassadeur de Grande-Bretagne, venu lui présenter ses lettres de créance. Mgr Lazaro Yuheung Sik, archevêque évêque émérite de Daejeon, préfet de la Congrégation pour le clergé. Le Saint-Père a également rencontré les membres de la Fondation Leader pour la paix. Le pape a débuté son intervention en s'arrêtant sur les conséquences sociales et économiques de la pandémie de coronavirus. Non seulement elle a appauvri la famille humaine de nombreuses vies, chacune précieuse et irremplaçable, mais elle a aussi semé la désolation et augmenté les tensions. Face à l'aggravation convergente des multiples crises politiques et environnementales, l'engagement des leaders pour la paix n'a jamais été autant nécessaire et urgent. François a insisté sur la nécessaire prise de responsabilité des citoyens car nous voyons souvent que c'est du bas que proviennent les sollicitations et les propositions, a-t-il remarqué, tout en reconnaissant le risque de dérive idéologique. Les leaders pour la paix sont appelés à jouer un rôle constructif dans cette éducation à la paix. Vendredi, c'était Madame Ingrida Simontier, Premier ministre de la République de Lituanie, le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode des évêques, Mgr Novatus Rugambwa, nonce apostolique en Nouvelle-Zélande, aux Fidji, aux Palaos, aux îles Marshall, à Kiribati, à Nauru, aux Tonga et aux Samoa, délégué apostolique pour l'océan Pacifique, et Monsieur Kiko Arguello, fondateur du chemin néo-catéchuménal, qui ont été reçus en audience par le pape. Dans la journée de jeudi, le Saint-Père avait reçu M. Bérard Koch, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, venu lui présenter ses lettres de créance. Mgr Luigi Bianco, nonce apostolique en Ouganda, Mgr Visvaldas Kulbokas, nonce apostolique en Ukraine. Et dans la salle Clémentine, c'était les membres de la Fondation Archer qui ont rencontré le pape. À l'audience générale mercredi 1er septembre, le pape a réitéré son appel à travailler pour la maison commune. Le pape a rappelé le début du temps de la création 2021 et annoncé un message préparé avec le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée et l'archevêque de Canterbury Justin Welby. En ces temps de grave crise planétaire, le temps de la création est une occasion pour les chrétiens de différentes confessions de prier et d'œuvrer pour notre maison commune. Ce traditionnel moment œcuménique nous exhorte chaque année à renouveler notre relation avec Dieu et tout ce qui nous entoure. L'intention de prière du pape pour le mois de septembre a également été annoncée mercredi 1er septembre. Le pape invite à un mode de vie écologiquement durable. Le Saint-Père demande de prier pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. Revenons pour terminer à l'appel du pape lors de la prière mariale de l'Angélus dimanche 29 août. Le pape a appelé à la prière et aux jeûnes pour l'Afghanistan. Dans des moments historiques comme celui-ci, nous ne pouvons pas rester indifférents. L'histoire de l'Église nous l'enseigne. En tant que chrétiens, cette situation nous engage à déclarer le pape. En activité du Saint-Siège, un prix spécial pour un engagement spécial constamment porté sur des questions fondamentales telles que la protection de la justice et de la paix, la résolution des inégalités économiques et la promotion de la solidarité mondiale, Ainsi, la Millennium Excellence Foundation du Ghana a souhaité honorer le travail du cardinal Peter Appia Turkson, natif du pays et préfet du dicastère pour le développement humain intégral. Le prix a été remis au cardinal lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue le 26 août à Accra, à l'Académie des sciences et des arts. Pour l'occasion, le cardinal Turkson a donné une conférence, commençant par deux mots importants, liberté et justice. Pour donner un sens à ces concepts, a déclaré le cardinal Turkson, le pays doit assurer la promotion de la dignité humaine à tous ses citoyens. La liberté, en effet, permet aux gens de vivre une vie digne, tandis que la justice invite chacun à vivre dans la conscience que nous sommes des êtres relationnels. Les besoins des autres, a donc expliqué le cardinal Turkson, doivent être respectés car cela rend une personne juste. Dans le même temps, le cardinal a exhorté les Ghanéens à ne pas perdre de vue le bien commun du pays. Si les pères fondateurs du Ghana ont choisi liberté et justice comme devise nationale, a-t-il expliqué, ils savaient de quoi ils parlaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient nous permettre de promouvoir et de vivre notre dignité. L'actualité de l'Église nous conduit à présent au diocèse de Dungu-Doruma en République démocratique du Congo, où notre correspondant local nous parle des professions religieuses chez les sœurs Augustines.
Au diocèse de Dungu-Doruma, dans la province du Haut-Ouélé, les sœurs novices Grace Titalegu, Denise Inopai et Sylvie Natoniko de la congrégation diocésaine des sœurs Augustines ont émis leur premier vœu de chasteté, pauvreté et obéissance entre les mains de la vicaire générale de la congrégation, sœur scolastique Makila Mabé. C'était au cours de la messe présidée dans l'église paroissiale Mater Admirabilis de Dungu Centre par l'administrateur apostolique du diocèse, Seigneur Émile Muchocho. Il a appliqué la parole de Dieu à l'engagement de nouvelles religieuses.
Que ce vœu descende au niveau de leur cœur pour que ça puisse guider et orienter toute leur vie. C'est ainsi que chacun qui verra vivre ces sœurs-là, qui les verra agir, puisse réagir et dire voilà des vraies religieuses.
Les sœurs Augustines de Dungu ont célébré les professions religieuses à l'occasion de la commémoration de leur saint patron Saint Augustin et sa mère Sainte Monique le 27 et le 28 août. Les sœurs Augustines ont ainsi accueilli deux nouvelles novices, Hyacinthe Merci et Irène Païté, tandis que sept jeunes religieuses renouvelaient leurs vœux temporaires. Jean-Baptiste Malenge Kalonzou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Amnesty International a dénoncé vendredi une nouvelle vague de répression par les autorités du Soudan du Sud, depuis un appel à des manifestations pacifiques contre le pouvoir de ce pays miné par la violence, la corruption et la pauvreté. L'ONG relève une augmentation des arrestations arbitraires et d'autres mesures après que la Coalition du Peuple pour l'Action Civile, regroupement de militants d'universitaires, d'avocats et d'anciens responsables gouvernementaux, a appelé fin juillet à des manifestations pacifiques le 30 août dans le pays pour réclamer la démission du gouvernement. Les autorités ont interdit ces manifestations, initiative de la société civile inédite dans l'histoire du plus jeune pays du monde, indépendant depuis 2011. La justice malienne a écroué vendredi un commandant des forces spéciales antiterroristes pour le rôle présumé qu'il a joué en juillet 2020 dans la répression sanglante de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé depuis. Le commissaire divisionnaire Oumar Samake, à la tête des forces spéciales antiterroristes au sein de la police, est la première personnalité placée en détention dans ces investigations lancées en décembre 2020. D'autres officiers, mais aussi des personnalités civiles, ont été entendus, a indiqué un magistrat proche de l'enquête, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en raison du secret de l'instruction. Ces investigations sont sensibles. Elles soulèvent la question de la mise en cause éventuelle de plus hautes personnalités, civiles ou non, dans une période de profonde incertitude politique après deux coups d'État en un an et alors que les militaires au pouvoir ont jusqu'alors prêché publiquement la réconciliation. De violents affrontements à l'artillerie lourde ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi entre deux unités de l'armée dans une banlieue sud de Tripoli, selon le commandant militaire de la capitale libyenne. Les combats ont opposé la 444e brigade, une unité d'élite des forces armées à l'organe d'appui à la stabilité, un appareil sécuritaire créé en janvier par l'ancien premier ministre Fayez al-Sarraj, a indiqué le commandant militaire de Tripoli, Abdel Basset Marouane, dans un message vidéo diffusé vendredi sur la page Facebook de la zone militaire de Tripoli. L'universitaire ougandais Lawrence Muganga a été libéré au lendemain de son arrestation pour espionnage grâce à une intervention directe du président ougandais Yoweri Museveni, a indiqué samedi un de ses proches. Vice-chancelier de l'université Victoria, Lawrence Muganga, 45 ans, a été libéré vendredi, a indiqué l'homme d'affaires Frank Kashumba, qui a souligné avoir lui-même contacté le président Museveni à propos de l'arrestation de son ami. L'universitaire avait été arrêté par les forces conjointes de sécurité pour espionnage et séjour illégal dans le pays, avait indiqué jeudi la porte-parole de l'armée Flavia Biekwasso.
Radio Vatican, France et Afrique. Marie-Josée Moindo.
Plus de 150 camions d'aide humanitaire sont parvenus ces jours dans la région éthiopienne du Tigré, où, selon l'ONU, des millions de personnes sont menacées de famine, ont annoncé samedi les autorités éthiopiennes. Depuis une semaine, les autorités éthiopiennes ont déployé des efforts pour mieux coordonner et faciliter le déplacement de l'aide humanitaire vers le Tigré, a indiqué le ministère éthiopien de la paix. Le coordinateur humanitaire par intérim des Nations Unies pour l'Éthiopie, Grant Leti, avait prévenu jeudi que la situation allait s'aggraver de façon dramatique et a appelé toutes les parties à permettre l'acheminement de l'aide afin d'éviter cette catastrophe imminente. L'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, a également exhorté vendredi le gouvernement éthiopien à faire davantage pour prévenir la famine dans la région ravagée par 10 mois de conflit. La méditation des textes liturgiques de ce dimanche avec le père jésuite Eric Kambale.
Chers frères et sœurs, à ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, les Saintes Écritures nous révèlent Dieu comme celui qui nous libère, qui nous guérit de nos diverses infirmités, sans faire aucune distinction discriminatoire entre ses fils. Tous nous sommes fils de Dieu, et celui-ci nous aime de manière égale. La première lecture tirée du livre d'Isaïe annonce la venue de Dieu sauveur du peuple qui s'affole. Des signes grandioses accompagnent sa venue. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les sourds entendent, le boiteux bondit comme un cerf, le muet crie de joie. La présence de notre Dieu nous donne la vie en abondance. Elle nous met debout et nous rend toute la dignité de fils. Certainement qu'il y a des difficultés de la vie qui nous rendent aveugles, boiteux, sourds, muets. Mais avec Dieu, nous sommes des grands vainqueurs, car il nous libère et nous ouvre à une vie nouvelle, une vie pleine et non chancelante. C'est à cette vie pleine que le Christ ouvre le sourd muet dont il est question dans l'évangile de ce jour. Jésus conduit le sourd muet à l'écart, pose des actes et dit des paroles qui le guérissent. Aujourd'hui, Jésus nous mène également à l'écart pour nous guérir de nos maux. Laissons-nous guider par lui, sans aucune résistance, et nous nous trouverons apaisés de tout ce qui nous alourdit à sa suite. Jésus dit à chacun de nous, « Ephphatha, ouvre-toi ». à quoi Jésus me demande de m'ouvrir. Cet ordre à l'ouverture nous interpelle. Symboliquement, en quoi je suis sourd ou muet dans mon vécu de chrétien? L'ordre de Jésus ne fait pas de distinction. Il nous invite tous à une guérison intérieure pour véritablement nous convertir à lui. C'est à ce traitement égal, sans aucune discrimination, que Saint Jacques nous invite dans la deuxième lecture. Il condamne l'accueil complaisant fait à deux personnes selon leurs différentes apparences et non pas simplement selon leur humanité commune. De nos jours, cette situation nous interpelle au plus haut point avec la montée de la culture de l'apparence. Nous créons des différences entre nous chrétiens et jugeons parfois selon des fausses et apparentes valeurs. Demandons au Seigneur l'esprit de discernement des vraies valeurs et de considérer, toujours et avant tout, l'humanité de nos frères et sœurs au-delà des apparences. Que la Vierge Marie nous soutienne dans cet effort du juste jugement. Amen.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui en République centrafricaine. Il est accompagné du réalisateur franco-suisse M. Manuel von Stürler. Il nous parle du film Siriri que le cardinal Nzapalainga et l'imam de Bangui ont présenté jeudi dernier dans la cinémathèque du Vatican. M. von Stürler commence par nous expliquer le choix du titre suivant.
Siriri, ça signifie paix en sango. Je me suis dit que c'était une évidence parce que c'est quand même le but recherché par le cardinal et l'imam. C'est aussi un mot qui chante et qu'on entend beaucoup quand on est sur place. Et donc c'était une évidence. Il fallait un sous-titre, le cardinal et l'imam, pour qu'on comprenne les enjeux du film, du récit.
Au cardinal Nzapalainga, après avoir suivi ce film, quels étaient vos sentiments?
Je commence toujours à penser à mon frère Omar Kobin Layama qui nous a quittés l'année dernière et j'aime souvent rappeler sa mémoire, un homme de paix, un homme de réconciliation et qui veut le bonheur de tous les Centrafricains, que Dieu lui accorde la paix. Hier, nous avons suivi ce film, que de souvenirs nous reviennent en mémoire, que de chemins parcourus. Oui, on ne peut pas sortir en regardant le film sans verser des larmes et se dire, comment expliquer que des hommes dotés d'une intelligence et de cœur, puissent être impassibles, pour ne pas dire insensibles, à la souffrance de leurs frères. Comment expliquer qu'on se ferme? Oui, des hommes et des femmes font des choix qui ne sont pas les nôtres, avec des intérêts divers, avec des enjeux divers. Mais nous, qui avons mis notre confiance, notre foi en Dieu, nous pensons que ce Dieu y veille sur tous les hommes et qu'il est hors de question de laisser des hommes, des femmes, dans une humiliation, déshumanisation, aliénation totale. Voilà pourquoi l'imam et moi, ensemble, nous avons pris notre chemin de pèlerin de paix en disant, et dans le Coran et dans la Bible, il est question de la paix. La paix, Dieu l'accorde. Les musulmans, tout le long de la journée, se saluent. Salam alaikum, salam, salam, salam. Souhaitent la paix au cœur, souhaitent la paix à la maison, souhaitent la paix à la famille. Ça doit pas être seulement au bout de lèvres, mais la paix doit venir d'ailleurs de Dieu et qui passe par nous pour tendre la perche aux frères et sœurs. Et hier, en voyant cela, j'ai pensé à ces hommes, ces femmes, tous ces enfants qui aspirent à la paix et qui ont l'impression que la paix fuit. Et nous devons sans cesse rapprocher les uns les autres pour dire « il est possible la paix ». Et hier, en suivant le film, ce sont les sentiments qui me reviennent en mémoire et en tête.
Plus d'une fois, nous avons eu à raconter votre engagement en faveur du dialogue interreligieux. Pensez-vous qu'il y ait des avancées significatives dans ce sens, particulièrement dans votre pays, la République centrafricaine?
Moi, je peux dire honnêtement qu'il y a eu des avancées. Au début, on a dit que la guerre en Centrafrique, c'est musulmans et chrétiens. C'est les cas anti-Balaka. Nous avons, pasteur, l'imam et moi, en prenant position, Nous avons essayé de dire aux gens, cette affaire est complexe. Les enjeux sont plutôt ailleurs. Et on instrumentalise, on manipule la religion, puisque à la tête, il n'y a pas d'imams, il n'y a pas de prêtres. C'est plutôt des gens assoiffés des richesses, de pouvoir, qui utilisent la religion pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut continuer à le dire encore, c'est la guerre interreligieuse, puisque la base a compris. C'est-à-dire, ceux qui étaient instrumentalisés, les fidèles, ont compris que l'enjeu était ailleurs, les enjeux sont ailleurs, et nous avons commencé à nous saluer. Vous allez actuellement dans beaucoup de villes, les musulmans sont revenus. Vous allez actuellement dans beaucoup de villes à la reconstruction des mosquées. Et j'ai la grande joie de voir dans la ville, on va dire quartier du 7e arrondissement, Wango à Bangui, quand on décidait de reconstruire, les jeunes chrétiens sont prêtés au jeu en étant des volontaires pour aider leurs frères. Donc au fond de chacun, le désir de la cohabitation est là. Il est de notre devoir comme leader, je le dis, et je vois des avancées. Les jeunes qui marchent ensemble, les jeunes qui discutent ensemble, les femmes qui maintenant collaborent. Avant, on ne pouvait pas rentrer dans un quartier qu'on appelle kilomètre 5. Aujourd'hui, vous allez à Bangui, vous pouvez rentrer dans ce quartier, vous pouvez sortir. Les musulmans ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, ils peuvent sortir. Il y a les débats. La plateforme organise aussi des rencontres pour désamorcer la haine, le désir des vengeances. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de pas et nous devons continuer à le faire encore auprès des frères et des sœurs dans beaucoup d'endroits.
Revenons à vous, Éminence, comme pasteur. En suivant ce film, quelque part, un homme au visage sombre affirme que la parole de Dieu n'existe plus sur cette terre. Il s'agissait de prière. C'est à la fois un cri de désespoir et la prière d'un homme qui n'aperçoit aucune lumière au bout du tunnel. Et ces genres de discours, vous les entendez sûrement à longueur de journée. Comme pasteur, qu'est-ce que cela suscite en vous? Par ricochet, quel est le rôle de l'Église dans ce contexte?
Je vais d'abord commencer au niveau humain, j'arriverai au niveau religieux. Dans toute société, on a besoin de minimum de règles, on a besoin de minimum de justice, que les plus forts n'écrasent pas les plus petits. Et quand il n'y a pas la sécurité, c'est souvent la jungle. Et nous voyons que c'est l'anarchie, c'est les plus forts qui écrasent. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays? Il y a des groupuscules. Des gens qui ont pris des armes et qui sont autoproclamés généraux, colonels, capitaines. C'est eux qui captent le pouvoir, qui se disent président, qui se disent maire, qui se disent aussi responsables de la société, préfet, mais ils n'ont pas la capacité. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là abusent de ce pouvoir-là pour souvent maltraiter les frères et les sœurs. Et je crois que, rendu à ce niveau, les gens sont démunis. Normalement, chacun devait dire, nul n'est au-dessus de la loi. Mais la loi n'est plus. C'est le chef qui fait sa loi, qui dicte selon ses perspectives. Et c'est souvent c'est une loi subjective à la tête du client. Et il y a le désespoir qui pointe à l'horizon à ce niveau. Quand on regarde au niveau religieux, on croit en Dieu. On a mis sa confiance en Dieu. Tous les jours, on se tourne vers lui. On l'implore, on le prie. Et quand on voit les ennemis nous assaillir, nous envahir, eh bien, la tentation est grande de basculer dans l'absurde. La réaction, moi je comprends humainement. On a mis notre confiance en Dieu et chaque fois on l'implore. Pourquoi on a l'impression qu'il est sourd? On a l'impression qu'il est insensible, qu'il ne répond pas? Et moi je dis aux gens, si, il n'est pas sourd, si, il n'est pas indifférent, il est à l'écoute. Et comment il est à l'écoute? Puisque moi, ce Dieu-là, moi, je crois en lui. C'est en son nom que je viens auprès de ce monsieur qui est désespéré pour lui dire, il y a de l'espoir. Faut pas baisser les bras. Faut mobiliser encore les quelques énergies qui restent pour dire, il faut continuer la lutte. Parce que le pire serait maintenant de rester dans l'absurde, de croire que c'est fini et de s'enterrer vivant. Non. Tu es encore vivant, tu as encore une force, tu dois encore lutter, tu dois encore garder la tête haute. Et ça, c'est mon devoir, l'espérance qui doit faire vivre. Il doit dire aux gens, l'aube nouvelle est en perspective et que tu dois sortir de là. Je le dis, pas seulement pour moi, je peux préparer le terrain. C'est comme Moïse, il n'est pas rentré dans la terre promise. Je prépare le terrain pour les autres. Et je crois que désespoir, la part de ces gens qu'on rencontre, oui, on l'entend en tant qu'humain, mais nous devons provoquer, mobiliser notre capacité, notre foi pour leur dire, non. Le dernier mot n'appartient pas à la mort, ni à la destruction, ni à la haine, ni à la division. Le dernier mot appartient à Dieu, appartient à la vie, appartient à la réconciliation, appartient à la paix. Cette paix, elle nous mobilise tous.
C'était le cardinal Dieudonné Zapalayinga, archevêque de Bangui en Centrafrique, accompagné du réalisateur franco-suisse M. Manuel von Stürler. Ils étaient au micro de Donatien Niembo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboile qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus. Maria.